Vous écoutez France Culture.
À voix nue. Ce soir encore, à l'occasion du Festival de Cannes, rencontre entre Claude Lelouch et Alain Kruger en 2011. Tout de suite, l'ultime conviction.
C'est un très gros succès, Lelouch, tout ça pour ça.
Oui, oui, c'est, ça a été un gros succès.
Ah, ça arrive après une période de creux.
Oui, ça arrive après, je ne sais plus après quel film d'ailleurs. C'est toujours intéressant d'avoir le film d'avant parce que j'ai souvent fait le négatif et le positif. Je veux dire, on fait souvent un film contre l'autre.
Juste avant, il y a La Belle Histoire.
Il y a La Belle Histoire, voilà. Quand je fais La Belle Histoire, ce film est un film pour moi très très important et pour Marie-Sophie. Marie-Sophie joue un rôle très important et pendant le tournage de La Belle Histoire, je sens que notre histoire est en train de battre de l'aile. Je sens qu'on est sur la fin de cette histoire et j'ai très envie de sauver mon couple avec Marie-Sophie. Très très envie, parce que d'abord j'ai eu 3 enfants avec elle. Et je me dis, pour la première fois de ta vie, Claude, il faut maintenant que tu fasses un gros effort. Fais un gros effort parce que c'est pas possible. Ces 3 enfants, cette femme, on a fait La Belle Histoire ensemble, qui est un film qui va trouver son public 5-6 ans plus tard, avec des gens qui m'ont manifesté plusieurs fois leur reconnaissance en me disant que ce film elle-même leur avait sauvé la vie. Et donc pour sauver mon couple, je fais tout ça pour ça. Je fais tout ça pour ça, qui est juste derrière. Et je suis prêt, pour sauver le couple avec Marie-Sophie, à tenter l'impossible. C'est-à-dire, je me dis, peut-être que on n'a pas essayé le libertinage. Peut-être que, pour récupérer Marie-Sophie, nous avons besoin tous les deux d'une liberté totale, de devenir un couple totalement adulte, ne plus avoir les barrières de... Il est tabou du couple traditionnel. Et c'est à ce moment-là que me vient l'idée de Tout ça pour ça, qui est un film, justement, qui place le sexe comme une récréation, comme un sport, qui permet justement d'alimenter les sentiments importants de l'amour. Voilà.
Avec une scène mythique avec Fabrice Lucchini.
Sous la tente. Où justement, il essaye de débloquer le couple d'à côté pour les entraîner dans une scène de libertinage. Voilà. Donc c'est une scène importante.
Avec Francis Huster qui s'appelle Simon, donc comme avec vos personnages masculins principaux.
Voilà. Alors cette scène, si on peut en parler, parce que elle n'était pas prévue sous cette forme.
Oui.
Elle était beaucoup plus raisonnable. Et puis, ce qui a fait qu'on a pété les plombs pendant cette scène, c'est que Lucchini ne savait pas que j'étais en train de tourner. Il croyait qu'on était dans une répétition. Et il s'est lâché, comme jamais on se lâche dans une répétition, en se disant « je peux dire des choses qu'on dit quand on est bourré, quand on est en train de déconner ». Et moi, je tournais. La seule personne qui savait que je tournais, c'était Huster. Tous les autres pensaient qu'on était dans la répétition. Et Huster, lui, d'ailleurs, il a eu l'élégance de se retourner. D'ailleurs, on le voit très bien, il se retourne parce qu'il rit tellement. Et il ne veut pas gâcher la scène, il sait que je suis en train de tourner. Et on a laissé partir Lucchini sur le thème même de la séquence, qui était une scène où on propose une scène de libertinage quand on est à 3000 mètres d'altitude, tous les 4 sous une tente. On peut tenter de débloquer les tabous. Et donc, on était parti là-dessus. Et Lucchini, lui, s'est lâché... en se disant, ça, d'abord, ça ne sera jamais dans le film, parce que Lelouch est en train de répéter. Et moi, je tournais. Et c'est la beauté de cette répétition qui a fait la force de cette scène, puisque les acteurs ont osé aller là où ils n'auraient jamais osé aller s'ils avaient su qu'on tournait une scène. Je pense qu'ils se seraient censurés, auto-censurés.
Alors, c'est un film dans lequel il y a Alexandra Martinez, qui est sous la même tente, d'ailleurs.
Voilà.
Et il y a aussi Evelyne Bouix.
Il y a aussi Evelyne Bouix, trois de mes femmes.
Ah, vous voyez, c'est un lapsus qui me paraît tout à fait intéressant.
Vachement intéressant. Oui, oui. Non, mais moi, j'avais voulu aller au bout de cette thérapie. Je savais très bien qu'en faisant...
Là, vous avez 55 ans quand vous faites ce film.
J'ai 55 ans, donc je suis dans une période où j'ai envie encore... je pense que 55 ans, c'est presque la mi-temps pour un homme. Enfin, c'est un peu plus que la mi-temps. Et donc, j'avais envie de réussir la deuxième mi-temps en plaidant coupable et en disant, voilà... tout ce que j'ai raté dans la première mi-temps, que j'ai raté, je voudrais essayer de le réussir dans la deuxième mi-temps. Et donc tout ça pour ça parle de ça. Parle justement...
De tout ça.
De tout ça. Et surtout, c'est pendant tout ça pour ça que je prends conscience à quel point la liberté d'un couple est essentielle à sa longévité. Je veux dire que ce qui fait qu'un couple peut aller très très loin, c'est la liberté, la jalousie. Si vous dites à quelqu'un « tu me tromperas jamais, c'est fini, c'est foutu », je veux dire que la liberté est la seule potion magique pour un couple qui a envie de prolonger la vie du couple. Car c'est vrai qu'un couple, ça s'use, mais la liberté, ça s'use pas. Et donc c'est ça le sujet de tout ça pour ça, c'est comment essayer de sauver un couple. D'ailleurs, Marie-Sophie essaye de sauver son couple et en passant, en disant bah, « s'il faut aller au libertinage, allons au libertinage ».
Et le macho sudiste, le louche, est pas jaloux?
À 55 ans, moins. Parce qu'à un moment donné, je suis confronté à des évidences. Je veux dire qu'à un moment donné, à force d'observation, moi j'ai procédé par observation toute ma vie. Et je suis obligé de reconnaître aujourd'hui que ce qu'il y a de plus sexy dans un couple, c'est la liberté qu'on accorde à l'autre. Je vous l'ai déjà dit, vivre à deux, c'est comme vivre célibataire. C'est ça l'art de vivre à deux. Je veux dire que on le voit très bien aujourd'hui. Vous avez des couples qui vont très très loin justement parce qu'ils habitent pas au même endroit. Regardez Michel Morgan et Gérard Oury. Ils vivaient pas ensemble. Et à chaque fois que l'un allait visiter l'autre, ils avaient le sentiment d'aller voir l'autre pour la première fois. Voilà.
C'est exactement d'ailleurs le sujet de Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick.
Tout à fait. Tout à fait. Et alors je crois qu'il y a une différence entre Kubrick et moi. C'est que je crois que Kubrick n'a pas été libertin à titre personnel. Moi j'ai essayé le libertinage parce que je voulais voir jusqu'où on pouvait aller. Donc je pense que quand je vois Eyes Wide Shut, j'adore la première heure qui est un chef-d'œuvre absolu, mais absolu, absolu. Je veux dire que il a jamais si bien filmé, ça n'a jamais été d'une telle précision. Ce qu'il raconte sur le couple est absolument prodigieux. Et puis au moment où dans la deuxième partie il y a toutes ces scènes de libertinage, là je commence à y croire un peu moins et je pense pas qu'il répond à la question. Mais j'ai cru à un moment donné que dans la première heure d'Eyes Wide Shut, il était en train de faire le film du siècle.
Vous savez que le titre original de la nouvelle, c'est « La nouvelle rêvée ».
Oui.
Et cette partie, justement, rêvée, est parfaitement réussie. Et la partie fantasmée du conte de fées, un peu très théâtre d'ombre, est peut-être moins effectivement
oui,
moins réussie.
Oui, enfin, il y a un décalage, quoi. On voit il y a une partie où il parle de choses qu'il connaît, et dans l'autre, de choses qu'il connaît moins, quoi.
Mais Kubrick, vous l'avez connu, enfin, vous avez...
Alors, on s'est beaucoup parlé au téléphone. Parce que... Un jour, il m'appelle et il voulait faire les projections privées d'un de ses films. Et il m'appelle, il me dit, il paraît que vous avez la plus belle salle de projection de Paris. Je voudrais faire toutes les projections de mon film chez vous. Et il me demande la distance qu'il y a entre le projecteur et l'écran, le nombre de décibels, le nombre de places. Et je parle avec un technicien absolument incroyable qui me pose des questions incroyables. Il était à Londres. Moi, j'étais à Paris et il était en train de choisir sa cabine de projection pour faire toutes les projections presse.
C'était quel film ?
Et donc, c'était Barry Lyndon, que je considère comme peut-être un de ses films les plus parfaits. Et donc, il me dit, j'ai besoin absolument d'une qualité de projection. Et il me pose des questions techniques. Et moi, des questions techniques que j'étais même plus capable de répondre. Je lui dis à un moment donné, écoutez, je vais vous passer mon projectionniste qui va vous dire, etc. Et au moment où je lui dis, je vais vous passer mon film, il dit, à propos, il faut que vous sachiez que La Bonne Année est un de mes films préférés, voilà, et il faudrait qu'un jour on en parle, parce que votre direction d'acteur me perturbe, me trouble, je trouve que vous avez réussi dans le rapport humain, des choses que moi j'arrive pas, peut-être parce que ma technique est très lourde, parce que la technique chez moi est capitale, essentielle, et je sens chez vous que la photo à ce moment-là est peut-être moins importante que vous privilégiez davantage le. Alors je dis oui, c'est absolument ça. Et il m'a rappelé ensuite parce qu'il voulait une copie de La Bonne Année. Il voulait projeter le film en 35 mm avec une copie tirée du négatif. Il supportait pas que ce soit tiré d'un internégatif. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez me tirer une copie de La Bonne Année tirée du négatif? Donc, ce que j'ai fait, parce qu'on peut rien refuser à Kubrick. D'ailleurs, qu'il a donc sûrement une des plus belles copies de La Bonne Année. C'est lui qui l'a, enfin, je sais pas où il l'a mise, etc. En tous les cas, je lui ai envoyé. Donc, c'est vrai que j'ai été très, très flatté de ce rapport parce que pour moi, Kubrick, est celui qui a poussé le plus loin les possibilités techniques du cinéma. Je veux dire, enfin, il a tout essayé, tout tenté, il a essayé de comprendre, et puis surtout, c'était un maniaque. Et c'est vrai que pour moi, un metteur en scène, c'est un maniaque. Un metteur en scène doit être un metteur en scène doit s'occuper de tout, de tout, de tout, de tout. On ne peut rien déléguer. On peut travailler en collaboration avec son monteur, avec son chef opérateur, avec ses acteurs, mais on ne peut pas déléguer. On peut pas. Et Kubrick nous a montré que, comme Orson Welles, comme Abel Gance, comme tous les gens que...
Comme des gens qui ont été dans ce bureau, d'ailleurs.
Voilà, qui ont été dans ce bureau. Donc, c'est ces metteurs en scène-là pour lesquels j'ai une très, très grande admiration, parce que je sais que leurs films leur ressemblent, et je sais qu'ils sont responsables de tous les plans qu'ils nous proposent.
Claude Lelouch, le cinéma, c'est toute votre vie, et vous avez fait un film qui s'appelle « Toute une vie » à 40 ans. Et alors là, là, on peut dire que la critique ne vous l'a pas pardonné.
Oui, oui, ce film a été aussi très sifflé au Festival de Cannes. Et en même temps, c'est un film qui a été un énorme succès aux États-Unis. Il y avait même Barbara Streisand, à un moment donné, qui voulait faire le remake de Toute une vie.
Et c'est un film, vous, qui est, on peut dire, un peu le préquel, là aussi, de deux de vos films, qui sont les uns et les autres. Et ces amours-là, qui sont trois. Enfin, il y a une espèce de trilogie quasiment sur ces films-là, avec deux morceaux de musique qui sont très importants pour vous, qui sont le Boléro de Ravel et qui sont le concerto numéro 2 pour piano, Rachmaninov.
Absolument. Du Boléro de Ravel, de Rachmaninov, je considère que ce sont les deux plus belles musiques de films qu'on ait jamais fait pour des films qui n'existaient pas. Je veux dire, d'ailleurs, le concerto de Rachmaninov a été repris par d'autres réalisateurs, dont Brève Rencontre.
Et voilà. Cette tendre réflexion.
Voilà. Et donc, je considérais aussi que le Boléro de Ravel était la musique de film parfaite, parce que si vous prenez la musique du Boléro de Ravel, vous pouvez la mettre sur n'importe quel film. Aussi bien des comédies que des drames, et ça marche. Je veux dire, c'est le battement du cœur de la vie, quoi. C'est comme un battement, et ça marche surtout.
Et la chanson de Becco, et maintenant, c'est le Boléro de Ravel.
Tout à fait, c'est le même principe, puisque le...
C'est la même
rythmique,
musique.
C'est la même rythmique au départ, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai alterné les films à petit budget et à gros budget, avec très peu de personnages et beaucoup de personnages. Je veux dire, j'adore les films chorales et j'adore aussi les face-à-face. Voilà, donc j'ai alterné toute ma vie, La Bonne Année, Un Homme, Une Femme, ça va dans la même catégorie, mais on peut dire que Toute une vie, Les uns les autres, Les Misérables ou Ces amours-là font partie de ces films chorales auxquels je suis très très sensible. Voilà.
Et ces films avec des constructions très très élaborées, d'ailleurs qui sont... très valorisés par M. Inaritu, M. Soderbergh, qui vous rendent d'ailleurs un hommage clair l'un et l'autre.
Qui me l'ont fait savoir, de la même façon que Kubrick m'a appelé au sujet de La Bonne Année pour me dire que c'était un de ses 5 films préférés et qu'il ne commençait pas un film sans montrer La Bonne Année à ses acteurs. Ce qu'il a fait d'ailleurs avec pour Eyes Wide Shut, puisque
avec Sidney Pollack.
Avec Pollack qui m'avait dit, il nous a forcé à voir La Bonne Année 2 jours avant le tournage en disant voilà comment il faut jouer la comédie. Donc non, je suis ravi de voir que il y a quelques metteurs en scène comme ça qui ont reçu cette part d'irrationnel qu'il y a dans mes films. Mais je le vois aujourd'hui avec certains metteurs en scène femmes.
Mais je trouve justement que ce que j'ai peu entendu, c'est que Claude Lelouch est un cinéaste très féminin et organique. Et j'ai été frappé de voir aussi bien dans Le Police de Mai Wen que dans La Guerre est déclarée de Valérie Donzelli une espèce de parenté avec cette énergie et cette façon de filmer qui est très organique.
C'est vrai que cette parenté existe et je suis sorti bouleversé par La Guerre est déclarée. Je tremblais vraiment à la fin de ce film. Et c'est vrai que quand je vois le cinéma de Mai Wen, les 3 films qu'elle a pu faire, mais d'ailleurs elle le dit, elle l'a dit à plusieurs reprises, qu'en tournant avec moi dans Les Parisiens, elle a découvert une façon de travailler avec l'acteur qui lui convenait parfaitement et qu'on retrouve dans son cinéma. Je veux dire que Mai Wen est dans la spontanéité complètement. Elle cherche elle aussi les parfums de vérité. Elle cherche ces instants qui sont plus forts que son scénario. Je veux dire, j'aime chez les metteurs en scène qui vont plus loin que le scénario. Parce que le scénario, encore une fois, lui aussi, il a trop le sens des affaires. Il y a une préméditation, il y a derrière le scénario toute une organisation financière qui fait que derrière ce scénario, il y aura des recettes. Et ce que j'aime chez tous les metteurs en scène qui me bouleversent, c'est quand je sens que derrière les scènes les plus belles, il n'y a pas de scénario. Quand je sens qu'à un moment donné, ils sont dans la vie, ils sont dans le talent du hasard, dans le talent de l'instant, dans le talent du moment. Et c'est vrai que La Guerre est déclarée, ce qui est bouleversant dans ce film, c'est que d'un seul coup, on n'est plus au cinéma. Là, on est en train de vivre en direct un reportage. Et puis, on ne sait plus comment on s'appelle. Notre intelligence n'a plus aucune prise. J'adore les films où notre intelligence n'a pas de prise. Vous voyez ce que je veux dire? Si l'intelligence a une prise sur une œuvre quelle qu'elle soit, c'est qu'il y a du machiavélisme quelque part.
On est dévoré par l'émotion. Alors, ce qui est très frappant, c'est qu'il y a un musicien qui s'appelle Bertrand Burgala qui parlait de vos films et qui disait « Michel Legrand parle à l'intellect et Francis Lay parle au cœur et parle aux tripes. »
Bien sûr.
Et dans vos films...
C'est exactement ça. Je ne sais pas si vous avez déjà été attentif au battement de votre cœur. Moi, je suis très attentif parce que je fais de l'arythmie. Et quand on fait de l'arythmie, votre cœur, à un moment donné, s'emballe. Il se met à battre très vite, très lentement. Et je me suis aperçu que mes crises d'arythmie venaient toujours à la suite de grands moments d'émotion que j'ai. À chaque fois que j'ai une crise d'arythmie, c'est tout simplement parce que mon cœur s'est emballé plus que mon cerveau. Voilà. Et donc, toute ma vie, j'ai eu envie de parler au cœur des spectateurs plus qu'à leur intelligence qui est encore une fois trop conditionnée justement par cette fameuse critique, par ses a priori. Je veux dire que le cœur, lui, il n'a pas besoin de la critique, il n'a pas besoin d'une analyse. On ne sait pas pourquoi il s'emballe, on ne sait pas pourquoi d'un seul coup... C'est lui qui vous donne envie de pleurer, c'est lui qui vous donne envie de rire. Donc c'est ce cœur-là qui est mon spectateur préféré. Je veux dire que quand je fais ces amours-là, Je parle, c'est l'histoire d'une femme qui n'écoute que les battements de son cœur. Elle se pose pas de savoir si c'est mieux d'aimer un Allemand ou un Français, un Juif ou un Noir. Elle se pose pas cette question. Elle a une seule référence, les battements de son cœur.
Alors vous avez produit deux films assez incroyables récemment, qui sont Ces amours-là et qui sont le film autocritique en fin de compte.
Oui, j'ai fait d'un film à l'autre et Ces amours-là. Il y en a un qui est un reportage sur mes 50 ans de cinéma, une sorte d'autoportrait, et l'autre qui est une fiction, mais qui raconte la même histoire finalement.
Oui.
Il y en a un qui raconte cette histoire en fiction, et l'autre qui raconte cette histoire à partir de reportages, de documents, et d'un autoportrait qui n'était pas destiné au public. Au départ, ce film, je l'ai fait pour mes 7 enfants, j'ai 7 enfants, et j'avais envie de leur expliquer... pourquoi je les avais trompés souvent avec le cinéma, pourquoi cette grande histoire d'amour que j'ai eue avec le cinéma a fait que j'ai pas pu leur consacrer plus de temps, et j'avais envie de faire d'un film à l'autre pour leur dire voilà où j'étais pendant que j'étais pas à vous aider à faire les devoirs.
Et dans ces amours-là, vous avez fait un truc qui, je crois, qui est unique au cinéma, c'est que vous avez réutilisé des plans ou des scènes ou des rushs des films de toute votre vie, de toute une vie, pour réinventer un autre film.
Oui, et, tout à fait. Et j'avais pas envie de retourner des scènes que j'avais déjà tournées.
Parce et puis en plus, sur un plan budgétaire, c'est impossible à faire. Parce qu'il y a des scènes de western, de débarquement américain.
C'était la folie totale. Mais en même temps, je trouvais formidable de faire une synthèse. Et je voulais dire en plus, attention, je vais reparler dans ce film de choses dont j'ai déjà parlé. Donc c'est un accès de sincérité. C'est-à-dire, je me suis dit, je ne vais pas retourner le débarquement, je ne vais pas retourner le parachutage, je ne vais pas retourner des scènes que j'ai déjà tournées. Alors j'aurais pu effectivement, mais je pense que je me serais répété. Et donc j'ai préféré les intégrer dans le film pour justement, au contraire, citer moi-même mes propres sources et mettre l'accent sur des scènes que j'avais déjà tournées.
Oui, quel luxe en plus de et pouvoir refaire la guerre de 14 ou la guerre ou le débarquement américain sur les plages de Normandie comme ça.
Voilà. Donc ce luxe-là, je pouvais me l'offrir. Je pouvais me l'offrir parce que j'ai été producteur de tous mes films, que j'avais les droits de tous ces films. Voilà. Et ce qui a été assez mal pris par une certaine critique qui a cru que je n'avais plus rien à dire et que je...
Alors justement, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui? Quels sont vos prochains films, Claude Lelouch?
Alors j'ai trois films dans la tête qui m'enthousiasme au même degré. J'arrive pas à savoir lequel des deux va être...
Des deux ou des trois?
Des trois. Lequel des trois va être prêt...
Vous avez commencé à choisir déjà. Donc, quel est celui que vous écartez déjà?
Non, il y en a un qui s'appelle Jeune loup et vieille canaille, qui est un peu dans l'esprit de l'aventure, c'est l'aventure, parce que je trouve que l'époque qu'on traverse est tellement dingo que c'est vraiment le moment de faire ce film. C'est un film sur les vieux cons, sur les jeunes cons et sur les cons en activité. Je pense que la connerie...
Il y a une chanson de Brassens très adaptée.
Voilà, voilà. Et donc ça, c'est une grande récréation. C'est un film récréation. C'est un film qui n'a pas d'autres ambitions que de divertir le public.
Il est écrit déjà ?
Il est écrit, complètement écrit. Et puis,
écrit avec qui ?
Alors, je l'ai écrit avec Pierre Witteroven, mon vieux complice.
Votre complice depuis le départ.
Depuis Un homme et une femme. Depuis, avec Grégoire, qui a fait un bouquin d'euphorisme absolument extraordinaire. Et puis, avec Valérie Perrin, qui a un talent de photographe et d'écrivain formidable.
Donc, c'est la première de vos compagnes qui passe derrière la caméra.
C'est la première qui n'est pas comédienne. Et qui est effectivement plus derrière la caméra que devant la caméra. Donc j'ai écrit ce film. Il y a un deuxième film qui s'appelle L'instinct de famille, qui est un film où je vais parler de choses que je connais, hélas, trop bien.
C'est-à-dire ?
Et c'est l'histoire d'un homme et de toutes les femmes qu'il a eues et de tous les enfants qu'il a eus. Enfin, je veux dire, donc c'est un sujet... dont je me sens très, 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 très proche.
Et ça sera tourné entre votre maison dans les Alpes.
Ça sera tourné à Praz-sur-Arly, dans la ferme où j'avais tourné une partie de Roman de Gare et que j'ai complètement réaménagé. Le décor est en construction. On est en train de faire le décor.
Parce que vous êtes un bâtisseur, en fait, quand vous bâtissez vos décors que vous habitez après, dans lesquels vous travaillez.
Oui, ça me permet de les sentir mieux. Et comme c'est un film qui se passe entièrement, c'est un huis clos dans cette ferme, qui est en pleine montagne isolée. Donc on a fait le décor, le décor est prêt, on est en train de finir les travaux et je pense que c'est un film que je vais tourner sur 18 mois ou 2 ans parce que je voudrais utiliser plusieurs saisons et le temps qui passe. Voilà. Donc c'est un film que je vais faire en plusieurs temps et donc en même temps que ce film, il est probable que je ferai Jeune loup et vieille canaille et peut-être aussi L'intime conviction qui serait peut-être aussi un film où je vais... Il y a un moment comme ça où on peut tout dire. Voilà, je me dis, voilà, le moment est venu de tout dire. Et donc, voilà. Non, et puis après, je ne sais pas. Après, peut-être que j'aurais plus l'énergie de faire des films. Parce que j'ai vu qu'il y avait des metteurs en scène d'un certain âge qui faisaient des films de plus en plus beaux. Mais moi, j'ai
vous
besoin...
Vous pensez à Oliveira ou vous pensez à qui?
Je pense à Oliveira, je pense à Clint Eastwood, je pense à Woody Allen, je pense à Alain René, qui sont des metteurs en scène.
Qui sont vos aînés.
Qui sont mes aînés et qui sont en pleine forme. Mais moi, j'ai besoin de beaucoup d'énergie parce que je porte la caméra.
Mais maintenant, les caméras se miniaturisent de façon considérable.
Oui, non, c'est pour ça que je pense que je vais jouer les prolongations et peut-être les tirs au but.
Alors, qu'est-ce que c'est ce troisième projet ?
Le troisième projet, c'est l'intime conviction. C'est un film sur l'intime conviction. Je pense qu'on a tous une intime conviction. Ça, c'est quand on arrive à la fin d'un procès, on demande aux jurés quelle est leur intime conviction. Voilà. Alors moi, c'est mon intime conviction sur mes 73 ans d'observation de ces gens qui s'agitent dans tous les sens. Donc j'ai quand même une petite idée de...
Vous nous donnez un petit aperçu ?
Non, parce que pour parler de tout ça, il faut beaucoup d'humour. Et si j'ai pas l'humour à ma disposition, j'aurais l'air de me prendre très très au sérieux. Donc ce film sera avant tout une comédie, parce que j'ai pas envie de j'ai envie de me sécuriser un tout petit peu sur le délire de mon intime conviction. Je veux dire que j'ai quand même une vision très très optimiste de ce spectacle incroyable auquel j'assiste depuis 73 ans. Et donc c'est cette vision-là que je voudrais protéger. Donc l'humour sera au cœur de cette intime conviction, mais en tous les cas, moi j'en suis intimement convaincu, quoi.
Bah écoutez, Claude Lelouch, on arrive au terme de ce voyage à voix nue. J'encourage les auditeurs de France Culture à lire le Claude Lelouch, mode d'emploi d'Ivalion et Jean-Olé Laprune chez Kalman Lévy, qui est une interview fleuve absolument passionnante. Et j'ai l'intime conviction qu'on a fait un voyage intéressant.
Fin de cette rencontre entre Alain Kruger et Claude Lelouch en 2011. À Voix Nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, réalisation Anna Schmuck, coordination Belline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se télécharge sur franceculture.fr. Et dès lundi, une nouvelle rencontre.